Au fond, vous avez été très longtemps un pèlerin, dans cette image un peu mythique du pèlerin.
Oui, sûrement.
Celui qui marche, qui cherche.
Oui. Et même, je pourrais employer cette image, celle d'une traversée. Après tout, le Bouddha l'a employée aussi. Un beau jour, on entreprend une traversée. Bon, pendant longtemps, on est dans l'océan, il y a des tempêtes, il faut naviguer, et puis un jour, on atteint l'île, la contrée. La traversée est finie. C'est net, c'est certain, la traversée est finie, les dangers de la traversée sont finis, on a les pieds sur le sol ferme. On a atteint. Mais cette contrée, on peut l'approfondir, la découvrir toujours plus, jour après jour. Il n'y a pas de limite là, dans la découverte de cette contrée, oui, qu'on a atteint après une longue traversée. Alors, d'un point de vue, c'est fini, la traversée est finie. C'est une expérience très forte, une certitude très profonde. Et d'un autre, il n'y a aucune monotonie. Tout devient une fête de nouveautés, de découvertes, d'enrichissement. Les deux points de vue sont simultanément vrais.
Alors, on va essayer de redescendre un tout petit peu, peut-être de faire le tour de votre chambre, puisque nous sommes ici dans votre chambre. Il y a des photos. Il y a des photos de sages, j'imagine. Il y a le sanctuaire là au-dessus de vous. Une espèce de radiographie de la tête du Christ. Étrange, toujours ce sanctuaire. Il y a des tantras, c'est ça? Attends.
Des tankas,
Des tankas, pardon, je prends. Oui, des tankas, un
peinture
tanka.
tibétaine,
Il y a une madone, là, une vierge.
romane, auvergnate.
C'est important, tout ça?
Oui, en effet, comme vous venez de le dire, c'est ma chambre. Nous avons une petite salle de réunion qui n'est pas très grande, puisque nous ne sommes jamais très nombreux ici, dans laquelle il y a beaucoup de photos de sages divers, de maîtres que j'ai rencontrés, et pas d'images, et pas de suaire de Turin. En ce sens que les personnes qui lisent mes livres sont souvent des déçus du christianisme, qui ne peuvent plus supporter le langage religieux auquel ils ont été habitués dans leur jeunesse, et qui ne peuvent retrouver la spiritualité que par un détour. Donc, comme on peut le voir dans mes livres, ça n'est pas particulièrement chrétien, bien que je me permette, sans être théologien de métier, de citer souvent les évangiles dont toute ma jeunesse a été nourrie. Par contre, dans ma chambre, oui, j'ai cette image du suaire de Turin, avec cette conviction personnelle que même si certains aspects du christianisme actuel ne répondent pas à la demande des uns et des autres, ce serait une bien grande perte de se détourner du christianisme des origines, d'oublier notre propre tradition. Et j'ai, parmi les livres qui m'ont vraiment intéressé, beaucoup, passionné même autrefois, il y avait Clément d'Alexandrie, Grégoire de Nyssa et bien d'autres pères de l'Église que j'ai lus pas du tout pour des raisons universitaires ou autres, mais parce que ça me parlait directement et un langage vivant et par lequel je me sentais concerné. Je n'ai pas seulement lu des maîtres hindous ou des maîtres bouddhistes. Quant à la photo là, en couleur, pas très bonne d'ailleurs, d'un sage, c'est ce Swami Prajnapad, le Bengali, là, qui parlait si bien anglais, qui lisait Einstein, Planck et autres physiciens, et qui avait même lu Freud, et qui pendant 10 ans, 9 ans exactement, a guidé avec souplesse et fermeté mon existence, puisque le chemin de la transformation ou de la purification intérieure, si on n'est pas moine dans un monastère, se confond tout simplement avec notre existence, ses vicissitudes, ses hauts et ses bas.
Ça aide l'ambiance, le climat d'un monastère, parce qu'il faut bien le dire, votre chambre est un peu une cellule, quoi. Je veux dire qu'il y a le plus grand dépouillement, il y a. C'est un peu une cellule de moine, finalement, votre chambre ici.
L'ambiance aide. Bien sûr que la liberté intérieure ou la sérénité sont non dépendantes des conditions. Mais tant qu'on chemine, qu'on progresse, l'ambiance aide. On est aidé à s'intérioriser par certaines architectures, par certains décors. Et on ressent cette présence du sacré dans une église romane, dans certaines mosquées, dans un temple, dans un monastère zen. Il n'y a aucun doute. Maintenant, une part de mon existence paraît bien austère, en effet, mais une autre, c'est une existence d'homme. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'intérêt et de joie à rencontrer mon fils de 20 ans, ma fille de 25 ans, avec qui j'ai beaucoup de contacts, qui ont été en Inde, qui lisent plus ou moins mes livres, qui s'intéressent à ce qui m'intéresse. Chaque fois que je peux, je vais à Paris voir ma mère. Je ne suis pas un moine ni ermite.
On ne peut pas comparer ces états de neutralité dont vous parlez, enfin cet état permanent de neutralité, et puis l'envie de rire, l'envie de bien manger, l'envie de voir quelque chose de beau.
Vous voyez, on dit beaucoup que le sage est sans désir, et il y a une expression qui nous aiderait beaucoup plus à comprendre si on disait « libre du désir ». C'est-à-dire, si le désir peut être accompli, pourquoi pas, si le désir ne peut pas être accompli, très bien.
Sans dépendance.
Eh oui, c'est un premier aspect. Et l'autre aspect, bon, c'est sûr, sinon il n'y a pas de sagesse, c'est une impression qu'en ce qui concerne soi, on a fait ce qu'on portait en soi de faire, on a reçu ce qu'on voulait recevoir, on a même donné ce qu'on avait besoin de donner, et que maintenant on est beaucoup moins préoccupé par soi-même et donc beaucoup plus disponible pour les autres. Et c'est ça qui devient la direction de l'existence. Le maître qui m'a guidé avait une expression qui m'avait beaucoup frappé. M'avait dit un jour, le chemin, c'est très simple. Moi seulement, moi et les autres et moi, et tout au bout, les autres seulement. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, comme toutes les paroles qu'il disait, même celles qui n'étaient pas mystérieuses ou hautement ésotériques. Et j'ai sincèrement essayé de voir comment j'étais situé, combien d'heures de la journée étaient dominées par moi, 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 moi et mes émissions, moi et les lecteurs de mes livres, moi et mes échecs, moi et mes succès, et combien d'heures étaient vraiment vécues, plus du tout en fonction de moi, mais en fonction des autres. Et l'autre, ça peut être son enfant qui rentre de l'école et puis qui a besoin que son papa soit disponible. Et peu à peu, oui, soi-même tient de moins en moins de place dans sa propre vie, et les autres tiennent de plus en plus de place. Tout cet enseignement ou toute cette vérité ou cette sagesse, comme vous, je sais pas le mot qui vous convient le plus ou qui vous gêne le moins, peut être exprimé en une page, en une phrase ou en un mot.
Allez-y.
Bon, pour moi, le mot dans lequel tout est contenu et sur lequel on pourrait écrire un livre entier, c'était, je l'ai entendu surtout en anglais, c'est le mot « yes », le mot « oui » en français. Un être spirituel, c'est un être qui vit dans un climat de « oui ». En fait, nous vivons dans un climat de négation, de refus, refus même que ce qui est soit. Remarquez bien que c'est le vrai sens, c'est un des sens en tout cas du vocable sanskrit « om » qui résume toute la tradition védique et védantique. Et c'est bien le sens aussi du « amen » hébreu, arabe et chrétien. La vérité ultime, c'est qu'il n'y a rien à chercher. Simplement revenir à soi-même et revenir à la réalité et à la vérité de l'instant. C'est un striptease spirituel. Se débarrasser d'opinions, de peurs, de désirs, de confections mentales, de fausses certitudes qui nous exilent, nous aliènent par rapport à cette conscience ou cette réalité ou ce niveau d'être fondamental, libre, mais tellement simple. Ce n'est pas les situations qui sont, ou même ce qu'on fait qui est le plus important. C'est la manière intérieure dont on le vit. Ceci dit, quand on vit d'une manière juste, il y a un certain nombre d'actions qui sont tout simplement douloureuses pour les autres et nuisibles pour nous, et qu'on n'aura plus idée d'accomplir. Ce n'est plus une morale venue de l'extérieur, c'est une évidence venue de l'intérieur.
À la limite, il n'y a plus de morale, puisqu'il y a une évidence.
Il n'y a plus de morale parce qu'il y a une évidence. Mais l'évidence, cette évidence-là, elle tient en un mot, hein, c'est le mot amour. Ou compassion, ou tout simplement bienveillance, sympathie chaleureuse.
Au nom de quelque chose d'immense, d'incommensurable, dont à la limite on ne peut pas parler, et qui d'ailleurs, certainement, vous le dites, dépasse même la notion de Dieu.
Bon, il arrive que je donne des précisions pour que certains de mes lecteurs, qui sont familiarisés soit avec la pensée chrétienne, soit au contraire avec la métaphysique, hindoue, dite non-dualiste, s'y retrouve. Donc je peux même paraître me contredire, puisque parfois j'emploierai un langage familier aux chrétiens et parfois un langage familier aux convaincus du Védantin hindou. Mais là, ce qu'on appelle la réalité, ce qui se découvre dans le silence intérieur, est en effet indescriptible. On peut seulement pointer dans une certaine direction. Et comme dit la sentence Zen célèbre, un doigt pointe vers la lune. Tant pis pour ceux qui regardent le doigt.
Arnaud Desjardins était en compagnie de Daniel Stevens dans une archive de 1985 et